20h01 sur Radio G. Tout de suite, vous allez pouvoir retrouver une nouvelle émission de Génération Sport. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Génération Sport. Ravi d'être avec vous jusqu'à 21h pour parler de toute l'actualité sportive locale et internationale. On est ensemble donc sur Radio G, le 101.5 FM, pour voilà parler de sport et on va parler notamment de basket. Je vous en dirai plus dans quelques instants. Avant ça, je vais présenter ceux qui m'accompagnent pour cette émission. À ma gauche, il a vécu une blessure assez grave il y a pas si longtemps que ça. Et il est de retour, malgré tout, avec une belle jambe, pas de bois, mais une jambe un peu voilà de plastique, c'est ça. Faustin est avec nous. Salut Faustin, comment ça va?
Salut Alex, salut tout le monde. Ça pourrait aller mieux, j'ai
effectivement
envie de dire. Mais bon, on garde la forme parce que c'est cool quand même de retrouver une émission.
Eh bien évidemment, parce que du coup la semaine dernière t'avais pas pu être présent.
Je souffrais.
C'était un peu trop dur. Voilà, donc c'est blessure à la cheville.
Exactement.
T'as un petit peu empêché d'être là la semaine dernière, voilà. Mais tu es de retour malgré tout. Et t'as même préparé une interview. On en parlera juste après. Clément est également là. Salut Clément, comment ça va?
Salut Alex, salut à tous. Moi ça va malgré une défaite un petit peu salée ce week-end.
Aïe.
On jouait contre une nationale, on jouait contre Le Mans.
Et la Gambardella?
Ouais.
Ok.
On a perdu 7-0.
Ouh là là,
bon, après, on aurait pu en prendre bien plus, je pense. Mais le niveau était même pas déçu parce que le niveau était beaucoup trop élevé.
Voilà. Ouais. Bon, la magie de la coupe n'a pas opéré.
Non.
Pour ce coup-là. Cédric est également avec nous. Salut Cédric, comment ça va?
Eh ben, écoute, ça, très bien.
Un très bon week-end?
Ouais, week-end tranquille. Hein. Avec pas mal de petites choses sympas pour les Français.
Ouais.
L'UFC.
Oui, et l'UFC, évidemment.
Un gros coup, quand même, pour un premier combat sur le sol américain pour un Français. On en parlera peut-être si on a le temps, mais en tout cas, c'était rapide pour une fois, mais dans le bon sens.
Mais dans le bon sens. C'est ça.
Non, puis bah, il y a ce week-end qui arrive, qui va être peut-être point de discorde pour la F1.
Ok.
Grand prix de Las Vegas, mais qui a lieu à 7h du matin pour faire une course de nuit.
Waouh.
Sachant que la nuit à Las Vegas, il fait 5-6 degrés.
Bon, ça
donc
va
je
être
te laisse compliqué. Imaginer l'état des voitures et surtout des pneus. Donc,
tu nous en parleras la semaine prochaine.
Je pense que, ouais, on risque d'être salé
la
semaine prochaine, en tout cas.
Dans cette émission, en plus effectivement de l'actualité locale et internationale, nous recevons Frédéric Cosset, coach de l'AS Avrillé Basket, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Frédéric.
Bonsoir.
Donc bienvenue déjà dans Génération Sport. Donc vous êtes le coach de l'équipe première féminine du club d'Avrillé et vous évoluez donc en National 2 et c'est Faustin qui connaît bien le club hein, pour y être un pensionnaire qui procédera à l'interview un peu plus tard dans l'émission. Sans plus tarder, on va commencer avec les actualités locales et internationales, avec pour commencer le SCO, désormais officiellement lancé dans la course à la montée en Ligue 1. Le SCO cherchait samedi soir à chasser son concurrent Lavallois de la première place du classement de la Ligue 2. À Pau, les Angevins partaient favoris mais vont être surpris dès la deuxième minute de jeu après une relance ratée de Fofana qui profite aux Palois ne se laissant pas prier pour ouvrir la marque grâce à Baswamina. Mais le SCO a encore un atout dans son jeu, il s'appelle Loïs Diony. L'attaquant en forme du moment s'offre un mouvement de grande classe en se déjouant de deux défenseurs adverses, je vais y arriver, avant de tromper Binguru Camara. 10 minutes plus tard, le match va commencer à s'emballer avec un nouveau but du Pau FC sur une reprise de l'expérimenté Boutaïb. Juste après la pause, Lopi égalisera sur une combinaison travaillée sur Coupier arrêté et Abdelli donnera l'avantage aux scoïstes sur penalty. La passivité de la défense en juin va une nouvelle fois faire défaut aux hommes d'Alexandre Dujeu avec le but égalisateur de Silla. Dans le Money Time, Baoya Garcia va venir remettre le score devant au score à la réception d'une balle qui traînait sur corner. À ce moment-là, Angers est leader de Ligue 2 car dans le même temps, Laval est défait 3-0 sur sa pelouse contre Concarneau. Mais c'était sans compter sur une énième boulette de Yaya Fofana, coupable d'une faute de main sur un long ballon palois, profitant à Boutaïb qui en profite donc pour offrir le point du nul aux pensionnaires du Noustekamp. Score final 4 partout, les Angevins partent des Pyrénées Atlantiques avec un sentiment plutôt amer. Les Noirs et Blancs sont quand même toujours à 2 points des leaders lavallois et également à 2 unités d'Auxerre qui suit juste derrière. Et à 3 journées de la mi-saison, les Angevins recevront Caen le lundi d'après la trêve internationale. On va passer maintenant au basket, Faustin. Il y a pas mal d'actualités avec nos 3 clubs locaux.
Ouais, je vais démarrer par l'EAB qui enchaîne une 3e défaite d'affilée. C'était cette fois contre Lille sur le score de 80-72. Au bout de 6 matchs, ils sont derniers du classement avec une seule victoire pour 5 défaites. On espère qu'ils vont se rattraper vendredi prochain contre Poitiers. Du côté de l'UFAB, il n'y a pas eu de match pour cause de trêve internationale, mais elle reprenne du service dès dimanche contre Montpellier. Et aussi, chose importante à signaler, il y a une campagne pour la favorisation du handisport qui a été lancée avec un objectif de 5000 euros de dons à récolter. Vous pouvez retrouver cette cagnotte sur notre story Insta Génération Sport. Maintenant du côté
sur Facebook aussi.
Et sur Facebook.
Il faut savoir que tous les gens qui achètent une place pour le prochain match, sur le billet, il y a 1 euro qui ira pour l'association à chaque fois.
Voilà, de quoi
belle initiative.
Donc, voilà, ça a été annoncé lundi.
C'est des choses qui font plaisir à voir du côté de l'UFAB. Maintenant, pour Cholet, ils ont joué 2 matchs cette semaine. Le premier, c'était en Ligue des Champions contre le club turc de Darussafaka. Et c'est une nouvelle victoire sur le score de 91-80 en Europe. Ils avaient ensuite un gros match à jouer en championnat face à Paris Basket à la Mairie. Et ils ont malheureusement perdu sur le score de 77-70. Ils joueront demain leur prochain match contre Nancy.
Et surtout, je reviens sur l'EAB, c'est une vraie crise sportive que traverse le club de l'Étoile avec cette dernière place qui fait mal. Je crois qu'ils avaient commencé par une victoire là, le tout premier match.
Je crois que c'était le deuxième match.
Deuxième match, et il y avait eu du coup, là il y a eu 4 défaites de suite.
3.
Qui font 3.
Ah oui, c'est la troisième d'affilée.
Parce que je crois que tu avais dit 5 défaites pour une victoire, c'est pour ça que je dis
ça.
Mais du coup ça fait 4.
Du coup, c'était au troisième match qu'ils ont gagné.
Ah ok, bon, voilà. Du coup, oui, c'est vrai que c'est un peu la crise. Et puis surtout, il y a eu cette perte aussi en phase de poule de Leaders Cup.
Ouais.
Dont ils étaient tenants du titre. Donc c'est vrai que la saison, ça annonce compliqué. Pour l'Étoile, on espère qu'ils vont pouvoir redresser. Je sais pas ce que t'en penses.
Dès le début, on avait senti une petite peut-être fragilité avec la perte de Kevin Lavieille, qui avait été certes remplacé, mais un joueur pas forcément intégré au groupe directement. Et c'est peut-être ce qui est en train de pêcher actuellement. Et j'espère que toute l'équipe et tout le staff va réussir à se remettre en question pour remonter la pente.
Ouais, surtout qu'on a peut-être maintenant à peu près la raison non officielle, officieuse de son départ. Quand on sait que la situation du club économiquement est très compliquée. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas une histoire, ton salaire, ça va être compliqué, et du coup ça expliquerait aussi ce départ soudain.
Peut-être. Rien qui a été communiqué officiellement.
Non, mais de toute façon, je pense qu'ils jamais diront officiellement que c'est pour ça, mais ça explique peut-être aussi, tu vois, le recrutement qui est peut-être moins adapté aussi à la saison précédente, je sais pas ce que t'en penses.
J'ai pas trop pu voir les matchs, j'avoue que du coup je sais pas trop ce qu'il apporte vraiment dans le jeu concrètement, mais je sais que en tout cas Kevin Lavier, il apportait vraiment beaucoup, surtout en défense.
Ouais, et puis même dans le collectif, il était là depuis plusieurs années. Hein, c'était clairement
un pilier de l'équipe,
comme tu le dis très bien. Voilà pour le basket. On va maintenant passer au handball. Opposé à un concurrent direct pour le maintien, le SCO Handball s'est rendu dans la Drôme pour y défier Valence vendredi soir. Et pour décrocher leur 4e victoire de la saison, les hommes d'Issamtej sont revenus de loin. Menés pendant une large partie de la première mi-temps, les Angevins accélèrent au retour des vestiaires et parviennent à passer devant, mais pas pour pour longtemps puisque les Valenciens répondent et vont compter jusqu'à 3 buts d'avance à 7 minutes de la fin. Mais c'était sans compter sur une fin de match électrique dans laquelle les Scoïstes réussiront à égaliser puis à passer devant à 28-27 alors qu'il ne reste qu'une poignée de secondes. Leurs adversaires ne reviendront pas, le SCO grimpe au classement et monte ainsi à la 7e place de la Pro League avec 4 succès en 8 matchs. Et pour la prochaine rencontre, il ne faudra pas attendre bien longtemps puisque Angers se déplace à Caen dès demain soir. Un petit mot sur les Ducs d'Angers. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de match depuis un petit moment maintenant, mais il y a un déplacement donc ce soir à Épinal,
oui, dans le cadre, 3 minutes.
C'est ça, dans le cadre du 8e de finale de Coupe de France. Donc Épinal qui n'est pas dans la Ligue Magnus.
Non.
Qui est dans l'échelon inférieur.
Oui, je crois l'échelon inférieur.
Donc la division 1. Et pour le retour de la Ligue Magnus, il faudra attendre vendredi avec ce match contre les Rapaces de Gap. Ouais. Donc la Coupe de France qui peut faire une bonne bouffée d'oxygène aussi à nos amis des Ducs.
Ouais, en tout cas qui peut relancer la machine parce que ça a été compliqué les derniers matchs.
Ouais.
Mais ouais, on va voir. Logiquement, sur le papier, on est favori, mais bon. Ça peut aller très vite, hein.
Ouais, ça fait longtemps.
Surtout quoi là, enfin, je sais
pas une match.
Je sais pas comment s'est passé le match précédent pour leur adversaire, mais si est-ce qu'ils ont joué un club un peu plus huppé ou pas, enfin voilà, ça peut y jouer aussi. Donc on va voir là, avec le premier tiers déjà si ça score rapidement, ce qui était un petit peu notre point fort, j'ai envie de dire sur les derniers matchs.
Exactement.
Et puis voilà. Ouais.
On verra ça.
On va essayer de suivre ça en fil rouge. En
ouais, c'est ça. Tu nous diras s'il y a des buts pendant l'émission. On va passer à l'actualité internationale maintenant avec, pour commencer, le football. Les résultats de ce week-end de Ligue 1. La journée a commencé avec un Montpellier-Nice qui s'est soldé sur un score nul et vierge. Les Niçois qui ont perdu la tête du classement à la faveur du Paris Saint-Germain qui s'est imposé 3-0 à Reims avec un triplé de Kylian Mbappé. 0-0 également entre Le Havre et Monaco. Le dimanche, le match entre Brest et Strasbourg avait été reporté. Et puis, lors du multiplex, Clermont s'est imposé contre Lorient 1-0. Metz contre Nantes 3-1. Et match nul entre Toulouse et Lille 1-1. Lyon a décroché enfin. Et oui, messieurs.
Son plus grand bonheur.
Exactement. Sa première victoire de la saison. 1-0 sur une tête de Jack O'Brien face à des Rennais qui étaient réduits à 10 dès la 3e minute de jeu. Pour l'affiche du dimanche soir, on avait droit à un beau Lens Marseille qui a un petit peu déçu et qui s'est soldé par une victoire lensoise 1-0 avec le but de Jonathan Gradit. C'est pas fini pour le football puisqu'il y a eu des bons résultats en Coupe d'Europe, notamment du côté de la Ligue Europa, pas forcément Ligue des Champions avec la défaite du Paris Saint-Germain 2-1 contre l'AC Milan, celle également de Lens contre le PSV Eindhoven 1-0, et puis en Ligue Europa, donc la victoire historique, j'ai envie de dire, de Toulouse contre Liverpool, 3-2, un match complètement fou. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir. Moi, je l'ai raté, mais ça devait être complètement dingue. À noter aussi donc la victoire de l'OM 2-0 contre Athènes et celle de Rennes contre le Panathinaikos 3-1. Est-ce que vous avez pu un peu regarder le match, vibrer devant cet exploit toulousain?
Pas vraiment, parce que le moment où je suis arrivé pour regarder les résultats de Ligue Europa, je vois que Toulouse a gagné 3-2 contre Liverpool. J'ai un peu bugué sur le moment. Je me suis dit, c'est vraiment arrivé.
Oui.
Après, je suis allé voir la composition de Liverpool. Bon, c'était l'équipe bis, mais bon, c'était quand même...
Ça reste quand même plus fort
un
que Toulouse.
Exploit.
Hein,
oui, voilà, c'est ça. Ça reste quand même un exploit et fallait le faire, quoi.
Et ils ont fait rentrer aussi des titulaires. Mm. C'est vrai que toi, t'as pu regarder un peu?
Non. Le seul match que j'ai vu... j'ai regretté que c'était le match du PSG.
Oui, forcément.
Franchement, enfin, quand on voit ce qu'ils ont produit, j'ai envie de dire, il y a un gros souci, quoi. Mmh. J'ai gardé vite fait la première mi-temps de Lens. Bon,
c'était pas
compliqué.
Fou,
hein. Ouais. C'est.
Mais la deuxième.
C'est dur de jouer là-bas. Puis vu les conditions, enfin, le terrain était bien humide. Enfin, c'était pas super. Après, on savait que pour le Lens, ça allait être quand même compliqué, mais bon, ils sont pas loin de quand même de créer un petit espoir. Ils sont pas loin, ils peuvent rester deuxième facilement.
Ils le sont toujours.
La troisième place, je pense qu'elle est quasiment assurée au vu de, au vu de son premier tour, quoi.
Au vu de Séville également qui ne gagne pas. Donc voilà, Faustin, toi, t'as pas pu voir le match.
Non, j'ai vu que les highlights, on va dire, les buts et tout, et j'ai vu aussi le tifo de Toulouse.
Ouais,
et
puis l'ambiance, c'est vrai.
Sur un malentendu,
ça peut marcher. Une très belle référence. Effectivement.
Générique.
Générique. Comment ça, générique?
Tu veux pas chanter les bronzés?
Alors, je ne chanterai pas. Donc, non. Il y aura pas le générique des bronzés. Voilà un peu pour les résultats des clubs français en Coupe d'Europe. Et puis, un petit mot également, puisque ça va être la trêve internationale avec l'équipe de France qui joue contre Gibraltar, puis la Grèce. Un nouveau venu, c'est Zaïre Emery, né en mars 2006, qui a seulement, donc, 17 ans et
l'âge
qui
de
va.
Faustin.
Exactement, l'âge de Faustin.
Plus jeune que moi.
Il est plus jeune que toi. C'est fou ça. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'es pas en équipe de France, Faustin? Mais bon, on dira ça, mais nous, non plus, Cédric, on n'y est pas. Voilà.
Ouais, mais je crois que j'ai passé l'âge, je me détends en équipe de France. Ouais.
Oui, je pense. Warren Zaïre Emery est donc le milieu de terrain du PSG qui a été donc appelé par Didier Deschamps pour la première fois. Voilà, ça va être intéressant de voir un petit peu ce qui va se passer. Je sais pas s'il va beaucoup jouer.
Bah, c'est ça le problème.
Quoi, Cédric, est-ce que c'est un peu trop tôt ou non, c'est le bon moment parce qu'il est très fort du côté du PSG?
Moi, ce qui me dérange, c'est qu'il y a l'équipe de France
Espoir
qui va jouer cette semaine aussi, qui a quand même des matchs importants. Est-ce qu'on peut s'en passer alors qu'on est en train de reconstruire une équipe vis-à-vis des JO?
Ouais.
C'est un peu dérangeant, je trouve, dans la construction et dans la route pour les JO, sachant que... Je suis quasiment sûr qu'il va pas le faire jouer titulaire, ça on est sûr.
Ouais. Après, ça peut toujours lui donner de l'expérience pour la suite.
Ouais, mais Deschamps, son problème, c'est quand il fait rentrer des joueurs, comme ça, c'est en fin de match.
Bah oui, c'est ça.
Donc si c'est pour qu'il joue 5 minutes, pendant ce temps...
Après, Gibraltar, là,
puis il va faire tourner. Oui. Après, à l'aller, il avait pas fait forcément beaucoup tourner.
Deschamps, il est sûr d'être qualifié.
Ah ouais, mais tu sais, il cherche la gagne, donc...
À se rassurer. Bon, on verra,
faut dire
aussi qu'il est là grâce ou à cause de la blessure de Tchouaméni.
Oui,
il y a une place qui s'est libérée pour appeler le jeune titi parisien.
Après, sur son début de saison,
sur sa performance, c'est normal.
Ça, c'est normal,
évidemment. Évidemment.
C'est pour ça qu'il est indiscutable aussi chez les espoirs en termes,
en termes
de sélection.
Et puis, il est indiscutable au PSG, ce qui est quand même pas rien pour un jeune joueur de son âge. On suivra évidemment les résultats de l'équipe de France. C'est donc, il me semble, samedi et mardi. Samedi, c'est Gibraltar. Et puis, ce sera ensuite le déplacement en Grèce mardi soir. Faustin, on va passer au basket international, j'ai envie de dire, avec la NBA, qui bat toujours son plein. Et j'imagine que tu vas nous parler de Wemby.
Justement, non.
Pour une fois, non.
Je vais me passer de ça, parce que j'en parle toutes les semaines depuis que c'est repris quand même.
Et puis que les résultats sont pas très bons, on peut le dire quand même.
Ouais, c'est ça.
Lui, il est bon, mais son équipe...
Apparemment, il commence à avoir pas mal de déchets quand même dans son jeu.
Ouais, il tente des choses, mais il est assez mal servi aussi, il faut le dire. Mais voilà, c'est le temps qu'il s'adapte.
On fait une pause Wemby cette semaine.
Voilà.
Okay. Pause Wemby, d'accord, ok.
On reprendra la semaine prochaine, évidemment.
Évidemment.
Mais voilà, je vais plutôt vous parler des Los Angeles Clippers, qui ont vu l'arrivée de James Harden dans leur rang récemment. Ce qui fait une nouvelle Dream Team en NBA. Une Dream Team, qu'est-ce que je raconte? Une team de All-Star, j'ai oublié le nom complètement, je sais pas ce qui m'arrive. Bref, voilà, composé donc de James Harden, Russell Westbrook, Kawhi Leonard et Paul George. Et pourtant, ça marche pas. Quatre défaites d'affilée depuis l'arrivée de James Harden. Avant James Harden, ça marchait pas super, mais ça marchait un peu. Mais James Harden est arrivé, il a viré plein de role-players, donc des joueurs comme par exemple Nicolas Batum, qui était extrêmement important à l'effectif des Clippers.
Et qui du coup ne joue plus.
Qui joue, mais
il joue
à Philadelphie. Mais
il est parti directement.
Ouais, c'est un échange de joueurs en fait, c'est NBA. Et depuis qu'il est arrivé, ça marche pas du tout. On pourrait dire que le gros problème c'est la défense, mais moi je trouve que j'ai vu un match et finalement pas tant que ça. On le voit aussi dans les résultats où ils prennent pas tant que ça de points. Mais c'est plutôt au niveau de l'attaque. Où, comme je le disais, il y a 4 All-Stars qui étaient excellents il y a 5 ans. Mais qui ont de plus en plus de mal récemment, que ce soit à cause des blessures, à cause du niveau de jeu qui est tout simplement moins bon. Et du coup, comme on manque de profondeur de banc, et bah il y a pas tellement de système, c'est énormément de 1 contre 1 et ça marche pas. Ouais. C'est ce qu'on voit, il gagne pas de match. James Harden à son arrivée, il avait fait une conférence de presse, il a fait avec moi, il y a pas de système, c'est moi le système.
Ah oui.
Ça montre un peu la mentalité du gars et c'est lui le système. Dernier match, il a fait 1 sur 7 à 3 points.
D'accord.
Voilà.
La petite pique lancée.
Bon, peut-être que il faut juste leur laisser du temps, le temps de s'adapter, le temps au coach de trouver justement ces fameux systèmes et peut-être de trouver même d'autres joueurs qui pourraient venir aider cette équipe. Mais en attendant, j'ai quand même un peu peur de ce qui peut arriver pour une équipe que, avant l'arrivée de James Harden, j'aimais beaucoup.
Ouais.
Et là,
je n'ai pas convaincu.
Non, là, je suis pas convaincu. C'est une équipe qui jouait le titre et maintenant, ça risque d'être compliqué parce qu'ils ont perdu contre aussi Memphis, qui sont les derniers, qui étaient à 1 victoire, 8 défaites. Maintenant, ils sont à 2 victoires, 8 défaites.
Voilà. Bah, merci pour ce petit point. Basket, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter dans ce bon?
Non, c'est bon.
Très bien. Bah, c'est intéressant de faire comme
de
ça. Peut-être.
De quoi?
L'équipe de France féminine, peut-être.
Il a mal fait son boulot, mais c'est pas grave, on t'en va pas.
En tout cas, ça s'est bien déroulé les deux matchs
pour
l'équipe de France.
Avec Laila Lacroix, on rappelle, Langevine.
Elles sont plus cool premières de leur groupe.
Mais voilà, c'est intéressant effectivement que tu nous fasses un point tactique comme ça sur l'équipe chaque semaine, c'est assez intéressant. On va maintenant parler de trois petites infos, pardon. On va parler tennis, de voile et donc, comme tu le disais, Cédric, un petit peu de MMA. On va commencer par le tennis avec en ce moment la fin de la saison puisque voilà la saison de tennis touche à sa fin. C'est en ce moment le Masters du côté de Turin avec vous savez les 8 meilleurs joueurs de l'année qui se affrontent avec pour l'instant 3 matchs disputé notamment dans le premier groupe, le groupe vert, et les victoires notamment de Djokovic, Sinner et Rune. Tsitsipas a quant à lui abandonné c'était cet après-midi contre le Danois Rune. Et puis dans le groupe rouge on retrouve les victoires de Medvedev face à son compatriote Rublev et puis la victoire de Zverev contre Alcaraz, voilà un petit peu pour les résultats. Et puis on va quand même parler un peu de français puisqu'il y en a pas, enfin c'est pas souvent qu'il gagne. Et on a eu 2 victoires de tournoi ATP 250 ce week-end avec la victoire d'Adrian Manarino du côté de Sofia en Bulgarie et de Hugo Humbert du côté de Metz. Donc voilà des bonnes victoires qui sont rassurantes. Et les deux étaient un petit peu à la lutte hein, pour savoir qui allait terminer numéro 1 français de cette année. Ce sera donc finalement Hugo Humbert. Dans une année où les Français nous ont quand même un peu déçus, notamment du côté des grands chelems. Résultat de la Transat Jacques Vabre, c'est Armel Lecléache et Sébastien Josse qui l'ont emporté et qui sont arrivés à Fort-de-France hier soir, dimanche soir, avec donc cette course qui aura duré 14 jours, 10 heures, 14 minutes et 50 secondes à la barre donc du Maxi Banque Populaire. Ils étaient partis du Havre il y a 15 jours. Pour le résultat de la Transat Jacques Vabre. Et puis, comme tu le disais, Cédric, il y a eu un beau combat ce week-end avec la victoire du Français Benoît Saint-Denis qui a clairement dominé Matt Frevola, l'Américain, chez lui dans le Madison Square Garden de New York. Et voilà, le Français qui a emporté plutôt rapidement dès le premier round, si je dis pas de bêtises.
Premier round, à peu près
sur un high kick dévastateur. Ouais. Qui a mis KO direct son adversaire. Et au niveau du classement des légers de l'UFC, il passe donc dans le top 15, ce qui est quand même très intéressant.
11e place,
il est 11e ex aequo. Ça va être très intéressant de voir l'ascension de ce Français. Et puis voilà, une victoire quand même aux États-Unis, c'est pas rien, parce qu'il avait déjà gagné à Paris en France.
Ouais, au dernier rassemblement là, de l'UFC justement en France. Pareil sur KO, je crois, de mémoire. C'était son premier combat aux États-Unis, on va dire vraiment pour rentrer dans l'élite. En plus, c'est une catégorie qui est super compliquée. Il y a quand même de beaux combattants. Et il a fait les choses bien. Les Américains, forcément, étaient derrière leur protégé. Mais dans l'ensemble, voilà, ça... ça a un peu refroidi la salle hein, quand il l'a mis KO. Parce que pour représenter un peu le match, il se fait légèrement dominer. Il se fait emmener au sol, il résiste, il se relève, ça repart un peu au sol. Et là, à un moment, il commence à prendre ses distances et puis il fait moitié une feinte, la garde SBS et là il met le pied, mais
pleine tête.
En 30 secondes et paf, c'est KO direct.
Donc voilà un Français qui marche bien du côté de l'UFC en attendant les autres, notamment Cyril Gane ou encore Morgan Charrière qui vont arriver dans plusieurs mois. Il n'y a pas encore de combat évidemment décidé, mais ça fait partie des Français qui va suivre toujours compliqué à l'UFC
d'avoir un combat.
Et aussi peut-être c'est pas en rapport. Je vais pas parler de MMA, mais le rugby où le 15 de France, enfin tous les joueurs du 15 de France ont repris. Le championnat, c'est ce week-end.
Oui, il y a le top 14 qui repartait.
Top 14 qui repart tranquillement, on en parlera peut-être dans la prochaine émission. On va passer maintenant à la pause musicale. On va s'écouter Dua Lipa et on revient juste après. Sur Radio G, on est toujours dans l'émission Génération Sport. On a évoqué toute l'actualité sportive locale et internationale. On va passer à l'interview. Avant ça, je vous rappelle, vous nous écoutez depuis le 101.5 FM ou bien sur internet www.radio-g.fr ou bien encore sur le DAB+ pour ceux qui veulent. On est donc dans la suite de cette émission, la partie interview, puisqu'on reçoit Frédéric Cosset, coach de l'équipe première de l'AS Avrier Basket. Alors c'est l'AZA Avrier Basket ou c'est
l'AZA Basket?
C'est ça, l'AZA Basket. Bon voilà, pour préciser quand même que on parle du club d'Avrier. Donc voilà, Faustin, tu vas t'occuper de cette interview puisque j'imagine que tu connais bien le coach. Donc voilà, je te laisse la main, Faustin, pour l'interview.
Voilà, donc Frédéric Cosset, tu es au club depuis ta plus jeune enfance, tu as eu un passif de joueur, tu es passé par le club de l'UFAB et tu es actuellement du coup le coach de l'équipe première féminine d'Avrier en NF2. Alors première question, tu reprends l'équipe en 2021, pourquoi choix? Pourquoi ne pas être resté sur l'équipe que tu avais avant?
Alors, effectivement, j'avais à ce moment-là des petits, des U13 garçons Et puis Victor Soulard qui coachait l'équipe, arrivé en fin de cycle, il avait fait 5 années en National 3. Et puis il m'a proposé assez tôt en me disant moi je vais sans doute arrêter, qu'est-ce que t'en penses, voilà. Et puis ça faisait un moment, enfin j'avais eu pendant 2-3 saisons des jeunes. Donc c'était bien de repartir avec des seniors. Et puis l'équipe féminine, c'était la seule équipe à Vrier que j'avais jamais coachée. Je les ai toutes coachées sinon, et donc c'était intéressant de repartir sur quelque chose de nouveau, voilà.
Ok, est-ce que dans cette saison, que c'était la saison de la montée, t'as repris l'équipe en N3 et vous êtes monté en N2, à quel moment dans cette saison tu t'es dit « Ok, là on est bien parti, on peut monter ?»
Je dirais en fin des matchs allés, en fait on s'était fixé les matchs allés, voilà, de voir un peu ce que ça donnerait, et puis à la mi-saison de faire un point et de se fixer un objectif. On était à 10-1, on a perdu le 2 ou le 3e match à Rezé, et puis après on a enchaîné 7 ou 8 victoires consécutives, donc on était à 10-1 à la mi-saison. Et là on s'est dit, faut qu'on joue, si ce n'est la première place, au moins les 2-3 premières places. Et puis finalement, on n'a pas perdu un match sur les phases retour non plus. Donc on a terminé à 21-1, voilà, avec parfois aussi un peu de réussite, parce qu'on n'a pas, on a dominé le championnat, mais on n'a pas tant dominé que ça nos adversaires dans les confrontations directes. On a souvent gagné de peu, voilà. Alors à la fois, ça peut montrer une certaine fragilité, mais ça peut aussi montrer une certaine maîtrise. Quand tu gagnes tout le temps de peu, tu peux te dire que malgré tout, c'est que t'es peut-être un peu au-dessus. Voilà, donc c'est venu au fur et à mesure de la saison, parce que c'était pas du tout l'objectif de départ, même si on savait qu'on avait une bonne équipe.
Ok. Maintenant, j'aimerais revenir sur ton passage à l'UFAB. Mmh. Tu l'as, t'y allé, tu l'as quitté, puis tu l'as retrouvé. Qu'est-ce que ça t'a vraiment apporté, le monde professionnel, l'expérience dans le monde professionnel?
Alors, une expérience tout à fait nouvelle, parce que moi j'avais toujours, ou presque toujours, été que à Avrier. Donc une expérience complètement nouvelle, un entraînement quotidien, un staff avec, moi j'étais l'assistant, avec un entraîneur qui m'a apporté techniquement, tactiquement, avec aussi un préparateur physique, un staff médical, donc ça c'était très intéressant. Avec aussi des joueuses qui pour certaines étaient internationales, donc j'ai découvert complètement autre chose. Et puis ça m'a permis aussi moi de me remettre en cause, d'aller me mettre un peu en danger, parce que les premières fois que je suis arrivé à l'entraînement, franchement je me disais qu'est-ce que je fais là, ça a été un peu difficile au départ. Et puis la manière de fonctionner dans le monde professionnel, elle est tout à fait différente de ce qu'on peut vivre dans le monde amateur. Donc c'est sûr que l'adaptation a pris un peu de temps. Et puis finalement, de semaine en semaine, j'ai réussi à trouver ma place. Les joueuses m'ont fait de la place, le coach m'a fait de la place aussi. Et puis j'ai beaucoup appris sur le plan technique et tactique. Ça c'est intéressant. J'ai découvert des choses forcément quand tu t'entraînes tous les jours, même deux fois par jour. Moi je faisais pas les entraînements du matin, mais deux fois par jour, tu peux bosser des trucs dans le détail que j'avais jamais fait à Vrier, que j'avais même jamais vu, pour être honnête.
Et c'est des choses que t'essaies de retransmettre un peu ton coaching, ou dans la manière de porter les entraînements.
Ouais, alors la question du transfert entre le monde professionnel et le monde amateur, elle est assez délicate, parce que le risque c'est justement de vouloir transférer sans filtrer. Or il y a plein de choses que tu peux faire, mais il y a aussi plein de choses que tu peux pas faire, justement parce que tu t'entraînes que 3 fois par semaine, là où avant tu t'entraînes 7 fois. Parce que les joueuses ont pas la même culture, parce que le danger est pas équivalent entre une joueuse extérieure en milieu amateur et une joueuse extérieure en pro. Pour parler peut-être plus clairement, une joueuse que tu laisses toute seule dans le monde pro à 3 points, t'as des chances de te faire sanctionner. Dans le monde amateur, un peu moins. En National 2, mais en National 3 encore moins. Tu peux des fois faire l'impasse sur une joueuse. Donc, que ce soit offensivement ou défensivement, tout n'est pas transférable. Et le rôle de l'entraîneur, c'est justement de savoir ce qui est transférable et de faire les bons choix.
Maintenant, en rapport avec ton expérience avec le mini-basket, du coup, t'as fait tous les niveaux de l'amateur chez les grands et chez les petits. Est-ce que là aussi, tu penses, ça t'a apporté des choses que tu essaies de retransmettre chez tes joueuses maintenant?
Oui, bien sûr, on est toujours le fruit de son histoire. Donc oui, ça m'a nourri, ça m'a construit. Par exemple, j'entraîne toujours une équipe de petits. Cette année, j'ai repris une équipe de U11 parce que je trouve que c'est le cœur du jeu, la passion du jeu. Tu lances le ballon, les petits, ils courent dessus, voilà. Cette passion-là, je crois que je l'ai gardée et que j'essaye de le transmettre aux joueuses. C'est-à-dire que j'essaye de leur rappeler souvent qu'on a de la chance d'être sur un terrain de basket, quoi. Enfin, tiens, toi qui es blessé, je vais pas dire le contraire, mais voilà, on a de la chance de pouvoir être sur un terrain. Il y a un certain nombre de joueuses qui sont formées au club, jouer en National 2, c'est aussi une chance. Tous les joueurs et toutes les joueuses n'ont pas la chance de jouer en National 2. Donc cette passion, j'essaye de la transmettre, de continuer de la transmettre. Ouais. Et puis, je sais d'où je viens, je sais d'où l'équipe vient, je sais d'où le club vient. Je crois que moi, l'équipe, le club, tout le monde doit savourer le fait d'être en National 2, ce qui ne veut pas dire que c'est une fin en soi, mais c'est la preuve quand même d'une réussite et qu'il faut la maintenir.
Ouais, d'ailleurs, cette réussite, il me semble qu'elle est en train de continuer cette saison encore. C'est quoi réellement vos objectifs si vous en avez cette saison?
Alors on en a. L'objectif, c'est de se maintenir. On est dans un championnat très concurrentiel parce que sur 12 équipes, il y a 3 équipes espoirs, donc qui sont des réserves d'équipes professionnelles qui peuvent pas descendre. Et donc il reste 9 équipes et sur 9 équipes, il y en a 2 qui descendent. Sachant que nous, on fait partie des petites équipes. Donc, sur 22 matchs, on estime qu'il faut en gagner 10 pour se maintenir. C'est ce qui s'est produit l'année dernière. On a gagné 10 matchs et on s'est maintenu à l'avant-dernière journée. Donc, 10 victoires, si tu comptes bien, ça fait 12 défaites. Ça veut dire qu'il faut gagner une fois sur deux et qu'avec une fois sur deux, t'es tout juste en capacité de te maintenir. Donc, on prétend à rien de plus que de se maintenir, voilà, ça sera déjà très bien. Et puis c'est vrai que le début de championnat a été plutôt réussi, mais voilà, toutes les équipes ont à un moment donné un creux dans la saison. L'année dernière, à part Gimon qui a fini leader, enfin premier, toutes les équipes ont enchaîné au moins 3 défaites consécutives, des deuxièmes jusqu'au douzièmes. Donc il n'y a pas de raison que cette année ça se produise pas un peu de la même manière. Peut-être que ça nous arrivera à un moment. Donc plus t'as mis de côté quelques victoires, mieux c'est. Mais il faut pas s'enflammer. On n'est pas suffisamment en haut pour prétendre à autre chose que le maintien.
Ouais. Ouais, là pour l'instant ça a bien démarré, il me semble. 5 victoires, 3 défaites. Mmh. C'est ça. Dit un peu, mais vous êtes content de votre début de saison, quoi.
Ouais, on est content de notre début de saison. Si tu m'avais demandé la semaine dernière, je t'aurais dit qu'on était encore plus content. Mais on était à 5-2, on a perdu ce week-end aux prolongations, 5-3. Oui, c'est bien. On est un peu au-dessus de des temps de passage qu'on s'était fixés, puisque nous, notre objectif, c'est d'être tout le temps à autant de victoires que de défaites. Donc on est à 5-3, ce week-end on joue à domicile, on a un bonus qu'on a été chercher à Mont-de-Marsan il y a 15 jours, donc il faut qu'on conserve ce bonus le plus longtemps possible.
Ouais, et aussi dans les matchs qui arrivent, dans donc un peu plus de 2 semaines, il y a le derby, on va dire, contre LMB, l'autre club du Maine-et-Loire, un peu le rival du club de l'ASA, du coup, j'en sais quelque chose. est-ce que c'est déjà quelque chose auquel tu penses, auquel t'as préparé les joueuses, ou quelque chose comme ça?
Non, j'y pense pas, enfin j'y pense tous les jours, parce que jouer contre un club qui te challenge, c'est intéressant, c'est le voisin, tout le monde se connaît, voilà. Mais j'y pense pas pour l'instant en un point de vue tactique, parce que on a d'autres matchs avant. Et puis les joueuses, j'ai pas besoin de tellement les préparer. Elles se connaissent toutes. Il y a 2 frangines, une de chaque côté, qui vont s'affronter. On s'est affrontés l'année dernière. Elles sont venues nous battre largement chez nous. On est allé les battre assez largement, mais un petit peu moins chez elles. Voilà. Ce que je souhaite, c'est que ça soit une rivalité qui soit saine. C'est-à-dire que on voit trop souvent des rivalités où les gens s'écharpent. Donc la rivalité sur le terrain, elle est importante et elle est stimulante. Après, faut quand même que ça soit un truc un peu sympa. C'est pareil, LMB, il y a quelques années, elles étaient en régional, même en départemental, il y a 10 ans. Donc, elles peuvent autant que nous savourer d'être en National 2. Donc, toutes les deux en National 2, si ça reste le plus longtemps possible, c'est formidable parce que c'est un beau challenge pour les l'une comme pour l'autre d'essayer d'être un petit peu au-dessus de son rival.
Ouais, ouais, c'est clair. Et est-ce que tu crois aussi que la création récente du COP d'Avoyer va vous aider à gagner certains matchs cette saison?
Oui, c'est évident. Jouer à domicile, c'est tout le temps un atout. Ou en tout cas, ça devrait tout le temps l'être. L'année dernière, on a gagné 4 à domicile, 6 à l'extérieur. Cette année, pour l'instant, on a toujours gagné à domicile. Donc effectivement, c'est un atout. Après, si tu comptes que là-dessus, moi, l'entraîneur, je peux pas compter que là-dessus. C'est un plus, mais l'entraîneur, il doit, lui, préparer son équipe techniquement, tactiquement, physiquement, mentalement. Et puis, le COP fait son boulot qui vient sublimer le travail qu'on peut faire, nous, dans l'équipe. Mais ça ne remplace pas.
Et est-ce que vous avez des questions, Léa, peut-être?
Ouais, parce que effectivement, à titre personnel, j'ai pu suivre un petit peu ce qui se passe à Avrier avec mes activités chez nos confrères de Ouest-France. L'année dernière, il y avait vous parliez souvent d'un problème parfois un peu d'effectif sur la fin de saison notamment. Est-ce que ça a pu être réglé? Est-ce que ça a changé un peu par rapport à ça?
Alors on a un effectif un peu moins riche que l'an dernier en nombre. L'année dernière, on avait commencé à 12, plus une joueuse qui arrivait du centre de formation de l'UFAB, qui s'était engagée pour jouer en équipe 2, mais avec l'idée de mettre les pieds en équipe 1 le plus souvent possible. On a eu 2 grosses blessures, si bien qu'on s'est retrouvé à 11. Cette année, on n'est que 10, plus 2 joueuses de l'équipe 2, qui sont des partenaires d'entraînement, et même un peu plus, parce que elles mettront les pieds sur le terrain dans la saison, c'est sûr. Par contre, donc on est un petit peu moins en quantité, mais par contre, je trouve qu'on a une équipe un peu plus équilibrée que l'année dernière, un peu plus homogène. Donc c'est si on n'a pas de blessure,
on touche du bois.
Ouais, voilà. Si on n'a pas de blessure, c'est bien. 10 plus 2. Maintenant, l'an dernier, en démarrant à 12 plus 1, si on n'avait pas eu de blessure, on aurait été un peu dans la difficulté aussi. L'année dernière, Faustin, tu parlais du derby contre LMB. Chaque week-end, fallait qu'on mette 2 joueuses sur le côté, puisqu'on était 10 sur la feuille. Et contre LMB, par exemple, on a dit à 2 joueuses, on s'était mis d'accord avec les joueuses, on annonçait ça le mercredi. Le mercredi, à la fin de l'entraînement, faut que t'appelles 2 joueuses et puis que tu dises toi et toi tu joueras pas ce week-end. Ouais. Le jour où c'est LMB que tout le monde attend, c'est les boules. Ouais. Et l'avant-dernier match de la saison contre Chalosse l'année dernière, c'était le match du maintien. Celui qui gagnait se maintenait, celui qui perdait descendait. Et il a fallu dire à une joueuse tu joues pas. Ouais. Et c'était une joueuse emblématique de l'équipe. Pour qui c'était le dernier match à domicile. Oui. Et Marie Caillot, j'en profite pour la citer. Et ça a été dur de lui dire c'est toi qui joues pas. Maintenant c'est le rôle du coach.
Bien sûr.
Mais si tu veux, finalement le nombre ça apporte d'autres difficultés.
Ouais.
Là on est que 10. Si tout se passe bien, ben écoute, ça le fera comme ça. En tout cas pour l'instant c'est pas du tout un problème.
Ouais.
Ouais, t'as une question, Clément?
Ouais, moi je voulais savoir, enfin là on parle de national, s'il y avait des transferts et comment se passaient tous ces transferts?
Ouais, alors effectivement, tous les ans il y a des transferts d'un club à un autre, les transferts sont plus ou moins encadrés, c'est-à-dire qu'il y a une date limite. Avant, vraiment la date était très serrée, désormais c'est un peu plus large. En tout cas, on peut recruter des joueuses à partir de la fin de saison, jusque fin novembre. Si la joueuse était licenciée dans un autre club, on a jusqu'à fin novembre pour pouvoir éventuellement la faire signer. Nous, on est un club assez complètement amateur, donc le recrutement n'est pas toujours simple, parce que en National 2, il y a des joueuses qui viennent avec des agents, qui demandent des rémunérations, des indemnités, des défraiements, ce qui n'est pas la politique d'Avrier. Donc, on a recruté 2 joueuses cette année, une toute jeune. jeune d'un centre de formation, et puis une joueuse qui est venue bosser sur Angers il y a 2 ans et qui s'entraînait déjà avec nous. Mais le recrutement, c'est une période assez délicate parce que tout le monde vise un peu les mêmes types de joueuses, c'est très concurrentiel, et quand t'as rien d'autre à proposer qu'un peu de bonne humeur, une équipe sympa, un sandwich, voilà. La concurrence est rude, ouais, y compris dans le Maine-et-Loire.
Moi, au moins, il y a la belle salle, excuse-moi Faustin, mais au moins il y a la belle salle pour convaincre.
Oui, c'est un premier atout, mais c'est un peu comme le COP, quoi. C'est pour ça qu'il fait qui fait le taf, quoi. Bon, voilà.
Moi, je voulais rester un peu sur aussi cet effectif, parce qu'il y a une grosse différence d'âge dans cet effectif aussi, où tu disais, t'as récupéré une joueuse du centre de formation qui a 18 ans, et la joueuse la plus âgée, on a 32. Est-ce que ça joue dans la manière dont tu traites chaque joueuse? Par exemple, imagine que tu prennes une défaite de 34 points, pour ne citer que ça. Est-ce que ça joue dans la manière dont tu réagis?
Alors, oui, forcément. De toute façon, quand tu coaches une équipe, tu coaches aussi des individualités. Donc ça a forcément un impact sur la manière dont tu parles aux gens et dont tu parles aux joueuses. Elles ont des histoires différentes, des expériences différentes, des personnalités différentes. Mais c'est l'un des critères, au même titre que les autres, des âges différents. Celle qui a 35 ans sera d'ailleurs contente d'apprendre que celle qui a 32 est la plus vieille.
J'ai mal regardé ça aussi.
A priori, tu devrais pouvoir parler à toutes de la même manière, mais en tout cas leur passer les mêmes messages. Pas leur parler de la même manière, mais leur passer les mêmes messages. Après, la manière dont tu parles aux uns et aux autres, elle peut être un peu différente en fonction de ce qu'ils sont. C'est-à-dire que toi, quand tu veux dire quelque chose à tes potes ou quand tu veux dire quelque chose à tes parents, tu t'y prends pas de la même manière. Pourtant, le message, le fond du message, il peut être le même. Mais tu leur dis pas tout à fait avec les mêmes mots. Là, c'est un peu pareil. Quand je parle à des joueuses qui ont été d'anciennes joueuses pro, puisqu'on en a, je parle pas tout à fait pareil que quand je parle à Agathe, par exemple, qui est une joueuse qui a toujours joué chez nous, qui a démarré en U9 chez nous. Voilà, et qui a pas un passé de basketteuse professionnelle. Mais il faut que je dise aux joueuses qui sont d'anciennes joueuses pro que ce qu'elles font, ça me satisfait pas, je leur dirais sans difficulté. Enfin, voilà, c'est ou à l'inverse, s'il faut que je les félicite, je les féliciterai autant les unes que les autres. Voilà.
Ouais, aussi, est-ce que tu as senti ou tu sens même que les joueuses les plus âgées, justement, ont pris sous leurs ailes un peu les plus jeunes pour les cadrer, pour leur apprendre le métier, si je puis dire?
Ouais, alors oui, clairement, effectivement, il y a des écarts d'âge. C'est plutôt un atout, moi je trouve, dans une équipe. De toute façon, dans un groupe, si tout le monde est identique, ton groupe il fonctionne pas forcément mieux. Donc c'est plutôt un atout. On a des joueuses expérimentées qui ont la passion du jeu et qui continue à s'entraîner, qui continue à jouer, elles bossent à côté, voilà. Et si elles ont la passion du jeu, c'est aussi parce qu'elles ont la passion du jeu collectif et que l'équipe, c'est important pour elles. Et donc les jeunes ont une attitude aussi intéressante parce qu'elles écoutent, elles apprennent, voilà. Mais je veux ajouter que les anciennes apprennent aussi au contact des jeunes, pas seulement sur le plan musical ou sur le plan du vocabulaire, mais aussi sur le plan basket. Les jeunes ont tout autant à apporter. Alors elles le revendiquent un petit peu moins, et puis peut-être pas dans les mêmes temps. Si tu veux, quand on est en prolongation la semaine dernière, les jeunes de 18 ou 20 ans, elles prennent pas la parole autant mort pour dire ça serait bien si on faisait comme ça. Voilà. Mais les plus anciennes ou les plus expérimentées plutôt peuvent le faire davantage. Mais ça n'empêche que dans d'autres temps de la semaine, on se voit 5 fois par semaine, certaines semaines, voire quand on est en déplacement. Là, on est parti 2 jours et demi pratiquement en déplacement. On se voit tout le temps. Donc, les jeunes, elles ont beaucoup à apporter dans la vie de groupe et dans la vie technique aussi de l'équipe.
Ouais, justement, si tu parles du déplacement, c'était ma prochaine question. Comment vous gérez ça avec le club? Est-ce qu'il y a un minibus, un bus, ou est-ce que c'est comme chez les petits où chaque parent emmène son enfant au stade?
Exactement, ouais.
Eh ben c'est un peu les deux parce qu'il y a des parents qui viennent. Alors le club, alors je disais tout à l'heure qu'on était un club qui mettait pas d'argent pour le recrutement des joueuses. Il y a pas de défraiement, il y a pas d'indemnité. En revanche, le club fait des efforts sur les déplacements et c'est à la fois pour mettre dans des conditions convenables l'équipe. Je disais que le championnat était hyper concurrentiel, donc si tu peux aller en gratter 3-4 à l'extérieur, c'est quand même bien. L'année dernière, on en a gagné 6, et c'est en partie parce que on a des conditions de transport qui sont bonnes. Le club, donc, on loue 2 minibus, donc c'est les parents, les copains de joueuses, les amis, voilà, des dirigeants qui conduisent quand on fait les longs déplacements, je parle. Les longs déplacements, c'est au-delà de Bordeaux, au sud de Bordeaux. Okay. Et donc, il y a 4 chauffeurs pour 2 minibus. On part le vendredi soir, après le boulot. On arrive vers minuit, 1h du matin à l'hôtel. On dort à l'hôtel. Le lendemain, petit-déj, un shooting. On essaye de trouver une salle dans laquelle on peut faire un petit shooting. Shooting, c'est un petit entraînement voilà, de 3 quarts d'heure, 1 heure. Et puis, retour à l'hôtel, la sieste. Et puis, le soir, on part à la salle vers 18h ou 18h30, quoi. Et puis le match terminé, on rentre directement après le match. Donc ça, on fait ça sur un tiers des déplacements. Ouais, ça fait 4 déplacements l'année dernière. Cette année, on fera 4 déplacements comme ça. On fera 2 déplacements en partant le matin, en faisant une sieste à l'hôtel et match le soir. Et puis les autres, ben, c'est des déplacements La Rochelle, Bordeaux et puis Pays de la Loire. Qu'on fait dans la journée, alors pas tout à fait comme les mini poussins, c'est pas avec les voitures, mais ça y ressemble. Enfin, on loue 2 minibus et puis il y a des parents, il y a des bénévoles. Voilà, de toute façon, ça marche tout le temps avec des bénévoles, donc voilà.
C'est le principe d'un, ouais, ça, le club amateur. Les bénévoles, évidemment, font ouais. marcher le club et tu en fais partie d'ailleurs. Dernière question, je pense, parce que l'émission va toucher à sa fin. Je sais que t'as eu une petite technique bien à toi. Pour les matchs, sur ton style vestimentaire, est-ce que tu peux nous en parler?
Oui, j'essaye autant que possible, mais il y a des fois des équipes qui choisissent des couleurs peu académiques. Alors, j'essaye de mettre un t-shirt ou une chemise ou une veste de la couleur des maillots de l'adversaire. Effectivement, je me fais toujours charrier parce que ça marche jamais. L'idée, c'est que dans la cohue, tu ressors une joueuse ressort un ballon, voit un maillot de la même couleur et puis que je puisse gagner un ballon. Ça marche jamais, sauf que au championnat d'Europe, il y a 2 ans, championnat d'Europe garçon, Ergin Antaman, qui est le coach de la Turquie, il est habillé en rouge et il jouait contre une équipe, je sais plus laquelle, qui joue en rouge, et il a reçu la balle dans le ventre. Et donc, ça me c'est motive, ouais, voilà, ça me motive à continuer. Et puis, ça fait rire ceux qui aiment bien se moquer de moi. Donc voilà, ça me permet de les charrier en retour. Donc c'est très bien.
Bah super, je sais pas les gars, si vous avez peut-être une dernière question avant de clôturer.
Non, bah au pire, rappelez que c'est, je crois, cette année, les 50 ans du club, c'est ça?
C'était l'an passé. On a fêté l'an passé les 50 ans du club.
Bon, 51 ans, du coup, c'est cette année. C'est un club qui dure, c'est ça. C'est bien aussi de le dire. C'est une structure qui dure depuis quand même très longtemps. Et ça, c'est hyper important.
Oui, c'est un club qui sait ce qu'il vaut. Donc ouais. Voilà, la première équipe en championnat de France, c'était en 97. Je crois que garçon ou fille, à un moment il y a même eu les deux, mais depuis 97, il y a toujours une équipe en championnat de France à Avrillé, que ce soit l'une ou l'autre, soit les garçons, soit les filles. Et parce que c'est bien géré, parce que les gens n'ont pas la folie des grandeurs, parce qu'ils savent d'où ils viennent et ce qu'ils valent, et quels sont leurs moyens. Et c'est pour ça que ça dure, effectivement. Quoi.
Ouais. L'humilité est très important pour bien travailler. Effectivement. Merci beaucoup, Frédéric, d'avoir été avec nous dans cette émission de Génération Sport. On salue peut-être des membres du club qui nous écoutent sur.
Oui, il me semble que oui. Une bonne propagande qui a été faite ce soir.
Exactement. Bah, écoutez, merci de nous avoir écoutés sur Radio G. Avant de se quitter, Cédric, un petit point sur les Ducs d'Angers.
Ouais, c'est la mi-temps à Épinal. Il y a un partout.
Le tiers-temps peut-être, non?
Tiers-temps, oui, tiers-temps.
Premier tiers-temps, un partout entre Angers et Épinal.
Si jamais les gens veulent voir le match, via notre Facebook, il y a un lien qui est légal. Hein, c'est diffusé directement par la télévision vosgienne. Très bien. Et on peut suivre le match en direct.
Entre Épinal et les Ducs d'Angers pour ce huitième de finale.
pour les Ducs, c'est un de nos anciens invités qui a ouvert le
Vincent
score.
Vincent Liorca.
Voilà.
Tiens donc. Et je crois que c'est un ancien d'Épinal en plus. J'avais vu sur les réseaux des Ducs d'Angers.
Donc, en tout cas, ça part quand même sur des chapeaux de roue. Hein.
On verra si les Ducs parviennent à se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe de France. On va donc se retrouver dès la semaine prochaine pour une prochaine émission. Faustin, j'espère que tu ne te feras pas mal à l'autre cheville et que tu seras bien présent. En tout cas, évidemment, bon rétablissement à toi. On va donc se quitter très bientôt avec le générique. On va vous laisser en compagnie de Imaginaire qui va nous suivre juste après. La semaine prochaine, évidemment, on parlera de toute l'actualité sportive locale et internationale, comme vous en avez l'habitude. Et puis, dans deux semaines, on recevra vraisemblablement une joueuse de l'UFAB. Donc, voilà, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine et la semaine, évidemment, d'après. Et puis, toutes les semaines, évidemment, tous les mardis de 20h à 21h. Je vous laisse avec le générique, puis je vous souhaite une très bonne soirée sur Radio G.
Il va falloir faire tout seul, j'ai d'abord